first of all, hip hop is not just a culture, it's a new civilization.
Okay.
Hip hop is one of the oldest cultures on earth. It is the first thing that human beings do when they come into existence.
Yes.
Breaking, emceeing, graffiti art, DJing.
Breaking
is dance.
C'est danser.
The earliest
La toute
form
première
of human communication
humaine
anywhere
dans l'histoire
is dance.
C'est danser.
How you move.
Comment tu
move
bouges.
According to nature.
Bouger en accord
move
avec la
according
nature.
To the fish,
comme les poissons,
the lions,
les lions,
the gazelles,
les gazelles,
the trees.
Bouger comme
this
les arbres.
Is what hominin humans did.
C'est ce que les premiers êtres humains ont fait.
This is early human, Neanderthals,
les tout premiers humains, l'homme de Néandertal, l'homme de Rhodésie,
l'Australopithecus, early hominin humans.
Les tout premiers êtres humains. KRS-1. KRS en anglais. The teacher, le prof, c'est son surnom. On va beaucoup parler anglais aujourd'hui. KRS-1, un des pionniers du rap, un des premiers, un des pionniers du rap, du mouvement hip-hop, un petit peu allumé, voire complètement taré. Lui, il développe la théorie selon laquelle le hip-hop n'a pas été inventé, mais a toujours existé, que c'est la première chose que les êtres humains ont fait. Théorie qui se tient. Mais en histoire, comme en hip-hop, comme en histoire du hip-hop, les spécialistes ne sont pas toujours d'accord. Discutent, se confrontent, s'affrontent. Et les théories sur l'histoire du hip-hop sont nombreuses. On va en explorer une aujourd'hui. On va explorer quelques petites histoires qui font la grande histoire du hip-hop. Et... En français, raconter des histoires, ça veut dire mentir. Mais on peut raconter des histoires sans raconter des salades. Et on peut aussi raconter sans se la raconter. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et pour ça, il faut qu'on voyage ensemble. Il faut qu'on voyage ensemble vers New York. New York. Au début des années 70, précisément, on est le 11 août 1973, dans un des quartiers de New York. Vous en connaissez plusieurs, vous connaissez Harlem, vous connaissez Manhattan. Et aujourd'hui, vous en connaissez d'autres aussi certainement, aujourd'hui, on va voyager dans le Bronx, plus précisément dans le South Bronx, le Bronx du sud de New York. C'est le paysage, c'est du verre cassé partout, une odeur de pisse dans les escaliers, une odeur insupportable, un bruit insupportable, des rats, des cafards et des toxicomanes. La population, c'est une population qui est venue d'Afrique il y a 500 ans, qui a été ramenée dans les bateaux d'esclaves d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire pour travailler dans les champs de coton par des Français, par des Anglais, par des Espagnols. Et aussi une population venue d'Amérique latine, des Latinos. Et aujourd'hui, le 11 août 1973, on est chez un adolescent qui s'appelle Clive, Clive Campbell. Clive Campbell, il approche des 18 ans et ses parents à lui viennent d'une toute petite île au large des États-Unis qui s'appelle la Jamaïque. Dont vous avez entendu parler certainement parce que cette petite île, son cœur bat au rythme de la musique, notamment de la musique reggae, de la musique ska et des sound systems. Les sound systems, c'est des endroits, c'est des moments où il y a quelqu'un qui passe des disques, qu'on appelle du coup un disc jockey, un DJ, qui passe des disques et qui a un micro et qui anime la soirée et qui fait danser les gens. Clive, il vient de cette histoire-là, ses parents sont arrivés aux États-Unis, à New York, dans le Bronx. Et du coup, lui, il a 18 ans, et quand on a 18 ans, on a envie d'exister, on a envie de montrer qu'on existe et de le crier au monde. Et sa manière à lui de le crier au monde, c'est d'écrire son nom sur les murs. Ou plutôt, d'écrire sa signature, sa marque, son étiquette. Étiquette, marque, signature, en anglais, on appelle ça tag. Il fait partie des premiers, ou en tout cas il fait partie des taggers de l'époque. Le tag commence à être à la mode à New York. C'est le fait d'écrire pas vraiment son nom sur les murs pour pas se faire reconnaître, mais en général, on écrit la première lettre de son prénom et le numéro de sa rue. Pour moi, ça serait I, parce que je m'appelle Ismaël, et 88, parce que j'habite au numéro 88. Donc je pourrais écrire I88 sur le métro de New York si j'avais 18 ans en 1973 comme Clive. Clive, alors ses potes, personne ne l'appelle Clive à part ses parents, ses potes l'appellent plutôt Herc, parce qu'il est géant, il est costaud, et donc c'est le diminutif de Hercule, Hercule. Et puis comme c'est un mec plutôt tranquille, on l'appelle Cool Herc. Et Cool Herc, aujourd'hui, le 11 août 1973, il a décidé d'organiser une soirée, ou plutôt une fête, parce que ça se passe en après-midi, une fête qui va rester dans l'histoire de la musique, dans l'histoire du hip-hop, mais dans l'histoire de la musique en général, pour l'anniversaire de sa petite sœur. C'est l'anniversaire de sa petite sœur, alors il va louer une énorme sono, il va mettre des enceintes énormes en bas de chez lui, ses parents habitent dans un bloc. Bloc en anglais, comment on dit ça ? Bloc. Et une fête, comment on appelle une fête en anglais ? Party. Et donc il va organiser une fête en bas de son bloc, une block party. Dans les block parties de Cool Herc, dans la block party, la première block party de Cool Herc, le son qui passe ne ressemble pas au son qui marche à cette époque. La musique qui cartonne à New York dans les années 70, vous savez ce que c'est ? C'est la musique disco. C'est ça la musique disco. Avec des énormes coupes afro, des pantalons pas de def, des costards à paillettes, des boules à facettes. T'as un autre morceau disco à nous faire écouter, Fred ? Yes. C'est ce son-là qui passe en boucle dans les radios new-yorkaises de l'époque. Pour écouter de la musique à l'époque, du coup, on écoute la radio ou on met des disques chez soi, des disques vinyles. Évidemment, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Deezer, il n'y a pas Spotify. Il n'y a même pas les lecteurs MP3, il n'y a pas non plus les autoradios. Et Cool Herc, lui, la musique qu'il écoute, c'est plutôt la musique qu'écoutent ses parents. Et ses parents n'écoutent pas de la musique disco. Ses parents écoutent de la musique soul. Cool Herc, une de ses particularités, c'est qu'il passe les vieux disques de ses parents, il va diguer, il va chercher, il va creuser dans les disques de ses parents ceux qui peuvent faire danser ses potes, et il va les passer dans ses soirées. Il y a des trucs qui bougent un peu plus, non ? Oh yeah. C'est ce genre de son que va passer Cool Herc dans ses soirées et dans ses block parties. Et pourquoi ? Cette block party du 11 août 1973, on la retient plus que les autres parce que l'histoire aime bien retenir des moments, parce que l'histoire aime bien retenir des dates, mais aussi parce que Cool Herc, ce jour-là, va montrer aux gens présents et en fait montrer au monde des DJ, mais au monde en général, une nouvelle technique. Une technique qu'il va appeler la technique du manège. En anglais, manège, le merry-go-round. Et en fait, il décide, vous savez, un vinyle, vous avez déjà vu un disque vinyle, c'est ça en fait ? J'en ai un là. Hop. Ça ressemble à ça. Est-ce qu'il est dedans déjà ? Je suis pas sûr. Si, il est dedans. Vous voyez, ça ressemble à ça. Vous avez déjà vu, hein, ça se pose sur une platine. Hop. Tac. On pose ça sur une platine, ça tourne. Et puis ça fait du son. Ok ? Et dans la musique de l'époque, dans la musique soul, mais surtout dans la musique disco et la musique funk, après le deuxième refrain, il y a un moment super important, le moment qu'on appelle le moment du breakbeat. Le breakbeat, c'est... T'as un breakbeat là ? Vas-y, viens, envoie-nous ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà. Le breakbeat, c'est le moment où il y a deux, trois têtes qui commencent à bouger. C'est après le deuxième refrain, en général, dans les chansons de disco-funk, c'est celui où il n'y a plus du tout d'instruments quasiment et il reste que la batterie, parfois un peu la basse. Là, il y a un peu trop d'instruments même. Envoie-nous un autre breakbeat, un truc un peu plus pur. Voilà. Ce breakbeat, c'est le breakbeat, c'est le breakbeat en vérité. C'est le breakbeat du morceau Funky Drummer de James Brown. Vous avez toutes et tous déjà entendu parler de James Brown, même sans avoir entendu sa musique. Il y a une vidéo YouTube de ce breakbeat bouclé pendant une heure. Et le commentaire le plus vu, vous savez, il est tout en haut. Et il dit, si on mettait un stéthoscope sur le cœur du hip-hop, c'est ce bruit-là qui ferait. On y reviendra après, on expliquera pourquoi. Et en fait, l'idée va avoir Kool Herc, c'est en fait, il s'est rendu compte qu'au moment du breakbeat, après le deuxième refrain, c'est là où tout le monde dansait. C'est là où les têtes bougeaient, mais c'est là où tout le monde dansait beaucoup plus et que tous les gens attendaient le breakbeat. Du coup, ce qu'il va décider de faire, c'est de, une fois arrivé à la fin du breakbeat, de mettre une deuxième platine à côté, avec un vinyle, et le faire redémarrer au moment du breakbeat aussi. C'est ça la technique qu'il appelle du merry-go-round. Pourquoi ? Parce qu'il faut rembobiner le vinyle jusqu'au moment du breakbeat et le relancer. Et ensuite, relancer le breakbeat d'après. Et puis relancer le breakbeat d'après. Pour que les breakbeats qui sont censés durer 20, 30, 40 secondes maximum, qui sont les moments attendus par tout le monde pour danser, se répètent encore et encore indéfiniment. Et les gens vont kiffer de ouf. Les gens qui sont présents, il y a 20, 30 personnes. Aujourd'hui, évidemment, il y a des centaines de personnes qui disent avoir été présents ce jour-là. Mais les billets, il en reste plus beaucoup. D'ailleurs, le billet coûtait 1$ pour les mecs et 50 centimes pour les meufs. C'était déjà comme aujourd'hui. Hein. Il fallait avoir des meufs dans ces soirées pour que ça marche. Et Kool Herc le savait bien. Et d'ailleurs, il avait même mis un service de sécurité et tout. Hein. Il avait fait les choses bien, billetterie et tout. C'était pour se faire de l'oseille et pour rembourser la sono aussi. Bref, les gens vont parler. Il va y avoir du bouche à oreille de plus en plus à propos de cette block party. Et Kool Herc va répéter ces fêtes. D'autres DJ vont venir et copier évidemment la technique du merry-go-round qui va devenir la technique des DJ qui font des block parties. Donc les block parties vont se multiplier, les gens qui n'ont pas de thunes et qui n'ont pas comme Clive des parents cool vont se brancher notamment à l'électricité de la ville pour faire des fêtes sauvages et ils vont même faire des battles de DJ, de celui qui a la plus grosse sono et de celui qui passe le meilleur son et de celui qui fait le plus danser les gens et du coup cette histoire de breakbeat va se répéter de plus en plus. Le breakbeat devient l'élément central des block parties et tu peux nous mettre un peu plus de volume là, genre qu'on se sente un peu dans une block party quoi. Voilà. Sinon, ça fait trop conférence, parle tout seul et tout, c'est un peu pourri. Et du coup les gens vont venir de plus en plus nombreux dans les soirées et dans les block parties et évidemment ça danse. Vous connaissez la danse de l'époque? Qu'est-ce qu'on danse sur les breakbeats? Et qu'est-ce qu'on danse sur la disco funk? Quelqu'un sait, c'est sûr. J'entends rien. Du breakdance? Eh ben non, pas encore. C'est pas encore arrivé. Mais on y est presque. En fait, la danse qui fonctionne, vas-y. T'as dit quoi? Du hip-hop, on n'y est pas encore. Là, on est en train de justement découvrir comment cette histoire est devenue l'histoire du hip-hop et comment le hip-hop est né. Ça s'appelle même pas encore hip-hop à ce moment-là. Vas-y. Du disco? Bah ouais, le disco c'est le nom de la musique, mais comment on danse? Alors il y a plein de façons de danser sur le disco, mais il y a une danse qui cartonne qui s'appelle le top rock. Est-ce qu'il y a des breakers dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui break? Ouais? Tu connais les top rock? Les pas de préparation? Les steps debout là? Vas-y, viens! Viens, viens! Sinon c'est moi qui vais le faire et je sais pas le faire, je suis pas breaker. Viens, c'est quoi ton prénom? J'entends pas, c'est quoi? Sofiane, vas-y, viens, viens avec moi. Viens mon pote. Alors tu restes là si tu veux et tu nous montres. Tu nous montres c'est quoi les pas de préparation du break? Comme ça, un truc dans le genre. Vas-y. Merci mon pote. Tu me fais juste les pas de départ, les steps comme ça là, tu sais. Tu les fais mieux que moi, c'est sûr. Vas-y. Et tu vas pas au sol pour l'instant, ok? Alors voilà, les gens dansent comme ça. Sauf qu'un jour, il y en a un. Alors il y a plusieurs théories hein, sur l'apparition du break, on sait pas. Est-ce que ça s'appelle break parce que c'était sur les breakbeats? Continue, continue. Vas-y, j'ai besoin de toi. Je te paye à la fin, t'inquiète. Ok. Et un jour, il y en a un, c'est une des théories, il y en a un qui se casse la gueule en dansant. Qui tombe, vas-y tombe. Tombe, retrouve-toi par terre. Il est par terre. Et il décide, voilà. On sait pas si c'est ce pas-là qu'il a fait, mais en tout cas, il était en top rock, il s'est retrouvé par terre. Et pour pas se taper la honte, il s'est relevé mais en dansant, et top rock au sol, c'est breakbeat, ok? Bon, je suis pas danseur, je le fais moins bien que Sofiane, mais c'est l'idée. Et de toute façon, cette histoire autour de la naissance du break, de la breakdance, on n'est pas certain. Moi, je l'aime bien parce qu'elle représente bien l'esprit du hip-hop qui est né très souvent de petites erreurs ou de petits trucs pas faits exprès. Par exemple, une autre technique du DJing qui est arrivée. On en reparlera après. C'est le scratching, je sais que c'est celle-là que vous aimez bien, mais on en reparlera après parce qu'on n'y est pas encore arrivé dans l'histoire. Ouais, la main qui se lève. Tu veux dire quoi? Vas-y! C'est parce que tu te grattais ou t'avais un truc à dire vraiment? Vas-y, dis! Tu veux pas? Ok. Du coup, ça danse à mort. Il commence à y avoir de plus en plus de DJ, de danseurs. Et donc, on était, vous vous souvenez, 11 août 1973. Ça fait même maintenant quelques années. Les danseurs sont de plus en plus nombreux, les block parties sont de plus en plus nombreuses, il y a de plus en plus de DJ qui améliorent même les techniques de Kool Herc, dont la technique du merry-go-round, mais d'autres encore qu'on n'aura pas le temps de voir ici. Et 13 juillet 1977, blackout. Blackout, ça veut dire coupure de courant. Coupure de courant dans New York, dans le Bronx et dans d'autres quartiers. Plus aucune lumière allumée. Aucune électricité qui marche. Il y a plein de photos, plein de vidéos de l'époque. Il y a même des films qui ont été faits autour de ça. Ça a beaucoup marqué les New Yorkais. Vous vous rappelez, qui habite dans le Bronx à New York? Sans lever la main, balancez. Si, il y a des gens qui habitent. Vas-y. T'as dit quoi? Kool Herc, ouais. Est-ce que le South Bronx est un quartier riche?
Non.
Ou est-ce que c'est un quartier pauvre? Est-ce que c'est un quartier pauvre, vous êtes sûr?
Oui.
En fait, c'est un quartier très pauvre. C'est peut-être le quartier le plus pauvre de New York. Et donc, coupure de courant, qu'est-ce que vont faire les gens? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Et les grands, vous avez le droit de répondre aussi. Vas-y, dis-moi, j'ai pas entendu. Non. C'est une très bonne idée, mais non. Non, la coupure d'électricité va durer 2 jours, mais elle va changer l'histoire du hip-hop et donc l'histoire de la musique moderne, en fait, des 50 dernières années de musique. Oui, tout au fond, vas-y. Ouais, le beatbox, t'as raison, c'est une bonne idée, mais c'est pas la réponse. Rappelez-vous, le mec tombe et il invente le breakdance. Ok? C'est un peu la même idée. Quand il se passe un truc pas prévu, on va le transformer en quelque chose de positif. Il se passe quelque chose de négatif, on va le transformer en quelque chose de positif. L'électricité est coupée et les gens, hip-hop ou pas hip-hop, vont se ruer dans les magasins et vont piller les magasins, vont piller, vont prendre tout ce qu'il y a à bouffer. Il n'y aura plus rien dans tous les magasins du Bronx. Ils vont piquer les pâtes, la bouffe, tout ce qu'il y a à boire, à manger, absolument tout, les vêtements, etc. Il ne restera plus rien. Et les jeunes qui vont dans les block parties, qu'est-ce qu'ils vont voler à votre avis? Exactement, des platines, pas des pistolets. Ils vont voler des platines, des enceintes, des boîtes à rythme, tout ce qu'il faut, tout le matériel pour faire de la musique parce que ça coûte une fortune. Ils n'ont pas de quoi s'acheter à bouffer, ils n'ont même pas de quoi se payer un billet pour rentrer en boîte. Et du coup, ils organisent leur fête dehors. Et là, par contre, il va y avoir plein de DJ qui arrivent. Il y a notamment Grand Wizard Theodore, dont on reparlera tout à l'heure, qui dit que lui, il a chopé ses platines grâce au blackout de New York. Blackout de New York, 13-14 juillet 1977. Et parmi les DJ qui vont ressortir, qui vont sortir de ce blackout et de cette nouvelle époque où il y a de plus en plus de block parties, il y en a un petit gars qui s'appelle Joseph Sadler. Lui, c'est pareil, il a un surnom, on l'appelle Flash. Plus tard, on l'appellera le grand maître. Ils aiment bien se faire appeler les grands maîtres, les rappeurs de l'époque ou les gens ou les DJ. Donc le grand maître en anglais, Grandmaster, et on l'appellera donc Grandmaster Flash. Et Flash, c'est un geek. Alors c'est un geek des années 70. Il n'a pas de téléphone portable, il n'a pas d'ordi, mais il adore tout ce qui, démonter tout ce qui est démontable. La télévision, la machine à laver, la roue du vélo. Particulièrement, il a un truc avec ce qui tourne. Ce qui tourne en rond, c'est son délire. Alors évidemment, le vinyle, il en peut plus. Il va retourner les platines, il va en faire des trucs de ouf. Il va notamment inventer la technique. En fait, il va notamment développer la technique du merry-go-round de Kool Herc, qui va rajouter une table de mixage entre les deux, passer d'un vinyle à l'autre avec juste un bouton qu'on appellera le crossfader. Bref, il va développer de plus en plus de techniques. Et notamment, c'est lui qui va avoir l'idée. Vous savez, les craies grasses, quand on était petit, vous voyez ces trucs-là, les craies violettes, oranges, etc. Il va noter. Il va écrire sur le vinyle, ce qui est un peu sacré, ce qui se fait pas trop à l'époque, et ce qui se fait d'ailleurs jamais trop, parce qu'un vinyle ça coûte une fortune. Il va noter dessus où est-ce qu'il est le breakbeat, pour pouvoir y revenir très vite. Et notamment, il va inventer entre guillemets ce qu'on appelle le quick beat, c'est-à-dire qu'il va passer très très rapidement d'un vinyle à l'autre, où il a mis exactement le même breakbeat. Et du coup, ça va faire comme si le breakbeat était répété indéfiniment. Kool Herc, lui, faisait passer plutôt d'un vinyle à l'autre, d'un breakbeat à l'autre, différent, sur des vitesses différentes, ce qui n'était pas très harmonieux. Flash trouve que ça sonne pas bien, et lui, il va mettre les deux mêmes vinyles des deux côtés pour répéter vraiment indéfiniment exactement le même breakbeat. On a dit tout à l'heure qu'en Jamaïque, dans les sound systems, le DJ, il faisait pas que passer de la musique. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il parlait. Il parlait pour quoi faire ? Qu'est-ce qu'il disait ? Il ambiançait les gens, exactement. Et qu'est-ce qu'il faisait ça avec quoi ? Avec un micro. Le DJ, dans les sound systems de Jamaïque, il lance le son est parti, il n'a plus rien à faire, il ambiance les gens. Hé, tout le monde, je veux que vous levez les bras. Hé, tout le monde, je veux faire ça comme ça. Et tout le monde, je veux voir les bras bien haut. C'est ça tout au fond, même si j'ai pas de micro, c'est une bouteille d'eau. Et c'est pas grave, je le fais, tu peux parler sur mon dos. Je le sais, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a, je veux voir tous vos bras. Je suis un peu nul en impro, et mais c'est pas grave, je donne ça au micro. Je suis pas un cave, je dédicace d'ailleurs à la cave au poète. Et tu le sais, je suis content quand je vois bouger les têtes. Voilà, il faisait des trucs comme ça. Les DJ avec plus ou moins de qualité. Il y avait des DJ qui étaient plus forts pour passer des bons sons et des DJ qui étaient plus forts pour ambiancer. Sauf que le DJ avec ses mains, il est de plus en plus occupé. Il doit passer d'un breakbeat à l'autre. Avec Flash, il développe encore d'autres techniques, dont celle du scratching. Vous savez, scratching, vous avez déjà entendu ça ? Ouais, vas-y, vas-y. Levez pas la main. Ouais. Ouais, en fait, Grand Wizard Theodore, donc c'est un DJ, c'est un élève de Flash, en vrai. Et un jour, il est en train de passer de la musique dans sa chambre, et sa mère, elle trouve que le son est trop fort. Du coup, elle l'appelle. Et il flippe, et au lieu de baisser le son, il met sa main sur le vinyle pour arrêter le son. Et en fait, il trouve que ça déchire, ça fait fou. Il trouve que c'est intéressant, et il va jouer avec ça, et il va se dire, tiens, c'est intéressant, ça sonne bien. C'est encore une fois une des théories, il y en a d'autres. Mais à peu près tout le monde est d'accord pour dire que le scratching vient de Grand Wizard Theodore. Bref, Grand Wizard Theodore, Kool Herc, Grandmaster Caz, Grandmaster Flash, tous ces DJ sont de plus en plus occupés avec leurs mains et ça devient compliqué de pouvoir animer la soirée en même temps. Alors, encore une fois, une idée qui vient de Grandmaster Flash, mais pas que, qui va être quoi à votre avis ? Organiser une fête avec tout le monde. Ok, est-ce que ça va l'aider à animer ? Comment il va faire en sorte d'animer cette fête, puisqu'il a les mains occupées, qu'il ne peut plus tenir le micro, qu'il est occupé à jouer avec ses platines ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Un micro qui tient sur un pied. Ouais, t'as raison. C'est une idée et c'est souvent ce qu'ils font. Ils mettent un micro qui tient sur un pied et ils continuent à mixer pendant ce temps-là. Sauf qu'en vérité, Flash, il n'est pas très bon pour animer les soirées. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va descendre son matos, sa table, ses platines, dans le City Stade, en bas de chez lui. Et alors, le City Stade, c'est pas du foot, hein, aux États-Unis, c'est du basket, beaucoup. Sur le terrain de basket, et au bout de la table, il va mettre quoi ? Un micro. Flash passe des disques, il met un micro au bout de la table, et celui qui veut vient. Micro ouvert, open mic. Celui qui veut vient, et il y en a un en particulier qui va arriver, en vérité deux. Ce sont des frères, et ils se font appeler Melly Mel and the Kid Creole, et ces deux-là vont avoir un vrai coup de foudre avec Flash. Ils vont prendre le micro, Flash va adorer leurs paroles, leur façon de rapper, leur façon d'ambiancer les gens. Eux vont adorer les disques passe Flash, et il va décider du coup de les emmener à chaque fois dans ses soirées. Ça va devenir en fait le premier groupe de rap, parce que eux sont déjà un groupe de rap à deux avec un troisième qui s'appelle Cowboy. Ils avaient des noms dont on peut discuter, mais ils s'appelaient comme ça. Qui s'appelle Cowboy. Eux, ils sont à trois. Ils rejoignent Flash et ils deviennent plus ou moins le premier groupe de rap de l'histoire. Parce que dans toutes les soirées de Flash, maintenant, c'est eux qui vont animer, qui vont venir improviser des paroles et faire danser les gens. D'ailleurs, Cowboy, il est militaire, il est parti à l'armée. Et vous savez, à l'armée, il y a le pas militaire, on marche comme ça. Et une, deux, une, deux. Et dans son pas militaire, lui, il va... Dans une des soirées où il est avec Flash, il veut imiter le bruit du pas militaire et il est en train d'improviser au micro. Et pour imiter ce bruit, il va faire une onomatopée et il va dire hip hop, hip hop, hip hop. C'est de là que viendrait le terme hip hop. C'est une des théories. Il y en a une autre qui dit aussi que hip, ça veut dire être intelligent, réfléchir vite en argot new-yorkais. Hop, ce serait le saut. Et du coup, hip-hop, ce serait l'intelligence en mouvement, ou le fait de réfléchir en agissant en même temps, le fait de sauter, d'aller toujours plus haut, mais en même temps avec la tête. Bref, plein de théories qui s'affrontent et qui se rejoignent en même temps. On l'a dit au début, dans l'histoire, on n'est jamais très sûr, surtout quand l'histoire n'est pas écrite. Et l'histoire du hip-hop, c'est une histoire orale. Et donc, The Kid Creole, Melly Mel et Cowboy, avec Grandmaster Flash, il commence de plus en plus à être connu. Les gens avant allaient dans les soirées pour voir les DJ, parce que c'était les DJ, les stars. Et petit à petit, les stars deviennent les rappeurs. Et qu'on n'appelle pas du tout encore rappeurs. Qu'on appelle comment à l'époque, vous savez? C'est d'ailleurs Melly Mel, vous savez, celui qui a pris le micro au bout de la table de Flash, qui invente ce terme. Vous savez, les plus anciens, vous savez comment on appelle les premiers rappeurs. Oui, on les appelle les MC. Les MC, ça veut dire Master of Ceremony, le maître de cérémonie, celui qui anime la soirée. Comme on appelait le DJ et qui était en même temps le MC dans les sound systems, il a fallu différencier les deux. D'un côté, on a le DJ et de l'autre côté, son MC. Et cette façon de scander, alors scander, c'est quelque part entre chanter et crier. C'est souvent, on utilise ce verbe-là pour les manifestations. Vous savez, on n'est pas content, on veut de l'argent, un truc comme ça. On est quelque part entre chanter et crier, ou alors dans les stades de foot. Allez les bleus, on est quelque part entre chanter et crier. On parle pas vraiment, on chante pas vraiment, on crie pas vraiment. C'est ça scander, c'est ça la scansion. Et du coup, cette façon de scander en rythme des paroles improvisées sur de la musique, ça vient d'où? Puisque c'est pas Melly Mel et Kid Creole qui l'ont inventé. Ça se faisait déjà avant, les DJ des sound systems le faisaient déjà avant. Et qui a inventé ça? Ça vient d'où à votre avis? Est-ce que vous avez une idée? Les prêtres? Comment ça? Faut m'en dire plus, c'est toi qui as dit ça? Vous? Qui a dit ça? Ah, c'est toi, pardon. Comment ça, les prêtres? Eh ben, c'est... Attends, on y revient, je reviens vers toi. Je reviens vers toi. Mais non, mais c'est bien, mais t'as un peu d'avance. Mais c'est cool. Du coup, cette façon de rapper et de scander, enfin, cette façon de scander des paroles sur de la musique en rythme, en effet, elle prend sa source chez les pasteurs, mais pas que. En fait, c'est un truc qui se fait depuis... Là, je pense que c'est KRS-One qui a raison, c'est un truc qui se fait depuis le début de l'humanité. Les êtres humains ont toujours fait ça en rythme. Et quelques années avant les rappeurs, il y a un groupe dont on dit souvent qu'ils sont les premiers rappeurs ou qu'ils sont les pères des rappeurs, qui s'appelait les Derniers Poètes, en anglais The Last Poets. Et ça, c'est, on a un clip là de 1971, donc on est deux ans avant la block party de Kool Herc, mais on est déjà quelque part dans une façon de presque rapper. On peut voir ça? Dans les années 70 et quelques temps auparavant encore, on peut remonter dans la décennie d'avant, dans les 60s, dans les années 60, on a un morceau qui est incroyable parce que le flow, il est exactement le flow qui est resté dans le rap jusqu'au milieu des années 90. Et pourtant, on est dans les années 60, c'est un morceau d'un mec qui s'appelle Pigmeat Markham. On peut écouter ça? Here comes the judge.
Yeah, this court is now in session. His Honor, Judge Pigmeat Markham Poseidon.
Même le beat, hein, d'ailleurs, même la musique ressemble.
Yeah, the court of swing is just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. Above all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line, or this court is neat. Peace, brother.
Whoa, here comes the judge. Here comes the judge. Everybody know that he is the judge.
Il est souvent cité en influence par les premiers rappeurs. Et encore un petit peu avant, on peut remonter à l'époque où la télé et les clips étaient en noir et blanc. Dans les années 40, il y a un groupe qui en effet chantait des chansons religieuses qui s'appelait les Jubalers et qui en vérité étaient complètement des rappeurs. Et on peut voir ce morceau qui s'appelle The Preacher and the Bear, le prêtre ou le pasteur et l'ours. Donc ça raconte l'histoire d'un pasteur et d'un ours, mais en vérité ils sont en train de rapper.
Brother, give me that only time religion.
Vous allez voir le couplet, il démarre, c'est vraiment un couplet de rap dans les années 40.
Yes, just come on, brothers, if you want to hear a story about that preacher and the bear. Gather round, boys, I don't want you to miss none of this here story, cause it goes like this. A preacher, he went out to hunt. It was on one Sunday morning. Though he was one Christian young man, but he took his gun along. Well, the first thing he shot was a bunch of fine quails, and he shot him a nice fat hare. Then through the woods on his way back home, he met a great big grizzly bear. Then the reverend fell down upon his knees. He sent up a great long prayer. Whilst he cast one eye to the heaven on high, but kept the other eye on the bear. He said, the Lord delivered Daniel from the lion's den, Jonah from the belly of the whale. The three Hebrew boys from the fiery furnace said, a good book do declare. Now look here, Lord, if you don't help me.
Et du coup, on peut revenir à nos années 70, où les rappeurs sont en train, petit à petit, de prendre le devant de la scène. Les MC, en tout cas, sont en train de prendre le devant de la scène. On l'a dit, les gens viennent de plus en plus dans les soirées de flash pour entendre les rimes de Melly Mel et dans les soirées des DJ pour entendre les rimes des rappeurs. Plus seulement pour danser, plus seulement pour entendre la musique que vont passer les DJ. Et il y a encore une évolution, comme le merry-go-round de Kool Herc, comme l'évolution de Flash, comme l'invention du breakdance. Il y a encore une évolution qui va être créée par un rappeur qui s'appelle Curtis Blow, qui est un des premiers rappeurs qui a un cheveu sur la langue, donc il se fait appeler Curtis en vérité. Et Curtis, il va inventer quoi à votre avis? Pareil, lui, il va changer l'histoire du rap, il va peut-être même démarrer en vérité l'histoire du rap. Qu'est-ce que ça va être l'invention de Curtis? Ça va être quoi son idée de génie pour se démarquer des autres MC? Il va écrire quoi? Alors, en fait, tu as la réponse sans exactement l'avoir. Rappelle-toi, En fait, les DJ, puis ensuite les MC, ils écrivent pas de chansons. C'est de l'improvisation. Exactement, c'est pas comme un freestyle, c'est un freestyle. Freestyle, c'est ça, c'est improvisé. Donc les MC en soirée improvisent des rimes comme j'ai fait tout à l'heure pour faire danser les gens, pour faire rire les gens, pour attraper l'attention des gens. Et Curtis Blow, en effet, il va avoir cette idée d'écrire ses rimes, de préparer ses rimes tout seul dans son petit coin, dans sa chambre, dans son petit carnet. Il va écrire des chansons, écrire des paroles, des lyrics qu'il va répéter à chaque fois, chaque soir. Et du coup, dans toutes les soirées où Curtis Blow rappe, ça sera exactement les mêmes paroles, ce sera plus de l'impro. Du coup, les gens vont venir pour entendre ça, parce qu'ils vont connaître les paroles au fur et à mesure et aimer les paroles. Et en fait, on est là devant les premières chansons de rap et du coup devant les débuts du rap. Et les rappeurs deviennent encore plus des stars, encore plus importants. Les DJ commencent petit à petit à être relégués au fond de la scène et à être relégués aussi au second plan, dans la tête des gens. Les gens viennent voir et viennent entendre et viennent écouter les rappeurs. Et petit à petit, cette nouvelle façon de faire de la musique fait du bruit hors du Bronx. Il n'y a plus que la jeunesse du Bronx qui va écouter ça. Et ça va venir aux oreilles des gens qui vivent de la musique. Les gens de l'industrie du disque, donc les gens qui payent pour que les artistes aillent sur scène et qui ensuite récupèrent l'argent. Comment on appelle ça, vous savez ? Les gens qui payent l'artiste quand il va faire un showcase, qui est-ce qui paye ça ? Ou qui est-ce qui paye l'artiste quand il va en studio ? C'est pas le manager. Le manager, c'est celui qui va organiser, qui va essayer de faire en sorte que son artiste soit vu, etc. T'as dit quoi ? Sponsor ? Non. Sponsor, c'est ceux qui donnent de l'oseille pour qu'on voit leur marque. Le producteur, exactement. Le producteur, en l'occurrence, c'est une femme. C'est une productrice, Sylvia Robinson, qui est aussi une chanteuse de R&B de l'époque. Et Sylvia Robinson, elle entend parler de cette nouvelle musique, elle entend parler du rap, des rappeurs. Et qu'est-ce qu'elle va faire, à votre avis, vu qu'elle flaire le bon coup? Elle se dit, il y a moyen de faire de l'oseille. Vous êtes Sylvia Robinson, vous êtes productrice, vous entendez qu'il y a une nouvelle musique dans le Bronx. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais, Sofiane, toi? Tu vas essayer de les voir. Comment tu fais pour essayer d'aller les voir? Tu vas à une block party. Tu vas à une soirée. Elle va à une soirée, elle entend Lovebug Starsky en train de jouer. Et elle se dit, il faut absolument que je rencontre des rappeurs. Comment elle fait pour aller rencontrer des rappeurs? Eh bien, elle va dans le Bronx et elle tape à la première porte qu'elle trouve. Et la première porte qu'elle trouve, c'est la porte d'une pizzeria. Elle va voir le pizzaiolo. Salut. Il la voit descendre avec son manteau de fourrure. Il la voit descendre de sa Cadillac en plein milieu de son Bronx tout pourri dans sa pizzeria toute pourrie. Et elle lui dit, salut, je cherche des rappeurs. À votre avis, rappelez-vous, transformez quelque chose de négatif en positif. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Évidemment, je suis rappeur. Et il se trouve que ce gars, il a dans sa poche, pas dans sa poche, mais en fait, il a dans sa chambre, un carnet de textes que lui a prêté Grandmaster Caz pour qu'il apprenne à rapper. Mais lui, du coup, il connaît par cœur les textes de Grandmaster Caz. Donc, il va faire un couplet de Grandmaster Caz. Il va lui dire, moi, je suis rappeur, vas-y, fais-moi un couplet. Et il lui fait un couplet de Grandmaster Caz. Et Sylvia Robinson, elle dit, mais c'est mortel. Viens avec moi, monte dans ma Cadillac, on va enregistrer un disque. Monte dans la Cadillac, il continue à rapper. Il y a un gars qui passe dans la rue, il les entend rapper. Pareil, il flaire le bon coup, qu'est-ce qu'il fait? Il les suit, freestyle. Moi aussi, je rappe. Bim, il y en a un troisième qui arrive. La même chose, il monte dans la Cadillac, il rappe. Et elle leur dit, allez, venez, on va en studio et on va enregistrer un morceau. Et en fait, ces trois petits gars sortis d'une pizzeria ou de la rue dans le Bronx, ça va être, il y a déjà des groupes de rap, mais ça va déjà être les stars de demain. Ces gars-là, ils vont aller en studio et elle va demander, Sylvia Robinson, aux musiciens de rejouer un tube qui s'appelle Good Times, d'un groupe qui s'appelle Chic. Et Big Bang Hank, donc le pizzaiolo, va enregistrer le couplet de Grandmaster Caz et ce morceau va faire le tour du monde. C'est sûr et certain, vous l'avez déjà entendu au moins une fois, voire plusieurs. Ce morceau s'appelle Rapper's Delight, du groupe qui s'appelle donc Sugar Hill Gang. Big Bang Hank, il est là-bas. C'est lui qui, c'est à gauche, c'était lui le pizzaiolo.
I said a hip hop, the hip to the hip hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock, you don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix. These reasons I'll tell you why.
Vous voyez, ils commencent son couplet par dire I am the CAA, the SN. Il donne les initiales, je m'appelle Casanova Fly. Casanova Fly, c'est le blast de Grandmaster Kazan. Donc lui, il commence son couplet en disant je m'appelle Casanova Fly. C'est pas du tout lui, lui il s'appelle Big Bang Hank. Et normal, ça passe, ça fait le tour du monde. Ça lui fait faire des concerts dans le monde entier. Et c'est une des premières stars du rap qui a juste piqué le couplet de quelqu'un d'autre. Et évidemment, il l'a jamais payé. Ce morceau, parce que tout le monde dans New York, en tout cas tout le monde dans le Bronx, connaît ce couplet de Grandmaster Caz, tout le monde respecte Grandmaster Caz, ce morceau, il est détesté par les gens du hip-hop, il est détesté par les premiers DJ, il est détesté par les premiers rappeurs. Pour cette raison-là, et aussi parce qu'il y a déjà des gens qu'on appelle les puristes. Les puristes, c'est ceux qui veulent que ça bouge pas. C'est comme ça. Ça n'évolue plus. Vous savez, souvent on entend dire aujourd'hui que le rap c'était mieux avant, ou alors que l'école c'était mieux avant, la langue française c'était mieux avant, il faut surtout pas bouger, il faut que ça reste comme c'était. On appelle ça les conservateurs ou les puristes, pour que ça reste pur. Et les puristes de l'époque disent que le rap c'est une musique live, c'est une musique qui s'enregistre pas. Qui s'enregistre pas dans un studio. Et rappelez-vous, hein, New York à l'époque, on l'a dit, le Bronx, c'est du verre cassé partout, de la pisse dans les escaliers, une odeur insupportable, un bruit insupportable, des rats, des cafards et des toxicomanes. L'ambiance, elle n'est pas joyeuse. Donc quand il y a une embrouille, même une embrouille pour de la musique, ça peut se finir mal. Et notamment, c'est allé très loin cette histoire de Sugar Hill Gang et de Rapper's Delight. Rapper's Delight, donc c'est le morceau. Il y a un DJ une fois dans une soirée, juste parce qu'il a passé le morceau, il y a quelqu'un qui est venu lui mettre un flingue sur la tempe pour lui dire t'enlèves ce morceau, tu passes pas ce morceau. Parce qu'aux États-Unis, évidemment, le port d'armes est autorisé. Les rappeurs sont donc devenus des stars, en tout cas ces rappeurs-là. Il y a d'autres rappeurs qui sont des stars dans le Bronx, dans New York, mais le Sugar Hill Gang a changé la donne. Le rap est écouté maintenant, en tout cas cette chanson est écoutée dans le monde entier. Et alors que le rap ne servait qu'à s'amuser, entre potes, quand on est entre potes, et quand on parle à ses potes, on ne va pas dire la même chose que quand on parle au monde entier. Et les rappeurs se sont rendus compte qu'à partir d'aujourd'hui, ils parlaient au monde entier. Et donc, ils vont arrêter de juste vouloir faire danser les gens. Ils vont changer leur discours. Pas tous, évidemment. Pas toutes. Mais certains vont se dire, OK, nous, on vit dans le South Bronx et le monde entier nous écoute. On a d'autres choses à dire que juste amusez-vous. Et l'ambiance, on l'a dit tout à l'heure, même si on n'a pas dit le mot, en vérité, c'est la guerre des gangs à New York, à la fin des années 70, au début des années 80. Et le gang le plus respecté, le gang le plus conquérant, qui va conquérir les autres territoires, c'est le gang des Black Spades. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Quelqu'un a déjà entendu parler des Black Spades? Ouais, Sofiane, c'est qui? Et toi aussi? Comment tu t'appelles, toi? J'entends pas. Enzo. Enzo et Sofiane, est-ce que vous connaissez le nom du chef des Black Spades? Le chef de gang le plus respecté de New York. Par ici, c'est sûr qu'on le connaît. Le chef de gang le plus respecté et donc le plus craint de New York, son surnom, c'est Africa Bambaataa. Africa Bambaataa, pourquoi? Parce qu'il est d'origine africaine, c'est un descendant d'esclaves. Et Bambaataa, c'est le nom d'un chef zoulou. Les Zoulous, c'est un peuple d'Afrique du Sud, c'est le nom d'un chef guerrier Zoulou. Et Afrika Bambaataa, quand il était jeune, il a gagné un voyage en Afrique du Sud. Et je ne sais pas c'était quoi le concours, j'aimerais bien, je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, il a gagné un voyage en Afrique du Sud, il y est allé et il a été frappé par cette histoire-là. C'est la première fois qu'il voyait des héros noirs aux États-Unis. On est quelques années seulement après la ségrégation, après Martin Luther King, après Malcolm X, après la Nation of Islam et après le Black Panther Party aussi. On est en plein milieu dans le Black Panther Party en vrai. Et tout ça, c'est des textes, c'est des gens qui vont influencer Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa lit beaucoup, lit aussi quelqu'un qui s'appelle Cheikhanta Diop, qui va expliquer que les pharaons étaient noirs et qu'il y a des héros noirs et que les noirs n'étaient pas... Bah ouais, tu fronces tes sourcils. Lui aussi, il a froncé les sourcils quand il a lu Cheikhanta Diop. Comment ça, les pharaons étaient noirs? Moi, je suis noir, j'habite aux États-Unis. Tous les noirs que j'ai vus habitent dans des quartiers pauvres. Ça n'existe pas un roi noir. Et on m'a expliqué que les pharaons étaient blancs, on m'a expliqué que Jésus était blanc, et Cheikhanta Diop explique que les pharaons étaient noirs, que Jésus était noir. Encore une fois, c'est un historien, ça se discute, mais en tout cas, ça lui retourne le cerveau à Afrika Bambaataa et à plein de jeunes de l'époque, des années 70-80, aux États-Unis. Et Bambaataa, en tant que chef de gang, il y a un moment où il va réunir tous les autres chefs de tous les autres gangs, et il leur dit, les gars, en fait, on se ressemble tous. On est tous noirs ou latinos. Et on vit tous dans la même merde. Et on se tire dessus. On se fait la guerre. Et si, en fait, on s'unissait ensemble? Et si on devenait une nation? Mais une nation universelle qui peut réunir tout le monde. Et du coup, sa nation, vous vous rappelez, le peuple qui l'a influencé, c'est les Zoulous. Il va appeler ça la nation Zoulou. La nation Zoulou universelle, ou la Zoulou, ou l'Universal Zulu Nation en anglais. Et toute nation a sa culture, et il va dire la culture de la nation Zulu, ça va être le hip-hop. Et il va réunir tout ce petit monde, les DJ, les breakdancers, les taggers, les rappeurs, et il va dire, nous tous là, au lieu de se faire la guerre, on va se faire des battles. On va se faire la guerre en rappant, on va se faire la guerre en dansant, on va se faire la guerre avec de la musique, on va se faire la guerre avec nos bombes de peinture. Évidemment, c'est caricaturé, la guerre de gang ne va pas s'arrêter grâce à Afrika Bambaataa, mais cet essai de Bambaataa, qui est aussi complètement mystique et complètement perché, hein, de la même façon que KRS-One. Pour rentrer dans la Zulu Nation à l'époque, il fallait absolument avoir lu entièrement soit le Coran, soit la Bible. Il fallait ne pas boire d'alcool, ne pas se droguer. Bref, c'était quelque chose d'assez strict. Et Afrika Bambaataa influence les rappeurs, et il va influencer notamment... Vous vous souvenez tout à l'heure, Grandmaster Flash, celui, le geek là, qui adore tout ce qui tourne, il était allé en bas de son quartier, il avait laissé un micro au bout de la table, et il y en avait un qui l'avait attrapé, il s'appelait Melly Mel. Melly Mel, une des premières stars du rap dans le Bronx, et Melly Mel va écrire un morceau, parce que lui aussi s'est mis à écrire comme Curtis Blow, et il se dit que maintenant il faut parler au monde entier, et qu'il faut passer un message, et du coup son morceau, il va l'appeler The Message. Pareil, c'est sûr, vous l'avez déjà entendu. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Broken glass everywhere, people pissing on the stairs, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, cause I'm close to the edge, I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. The Message, pareil, morceau qui va faire le tour du monde, peut-être le deuxième tube de l'histoire du rap, et qui a rien à voir avec Rapper's Delight. Rapper's Delight, les paroles c'était juste venez on danse, venez on s'amuse ensemble. Et là il y a un changement dans l'écriture du rap, et ce changement, en fait, ces deux façons de faire du rap vont cohabiter jusqu'aujourd'hui. On va avoir des gens comme peut-être comme Jul, ou je sais pas, comme Nino, qui vont plutôt vouloir faire danser les gens. De quoi? Vas-y, dis. Ok. On va avoir des gens comme Jul, comme Nino, qui vont plutôt vouloir faire danser les gens. D'autres, peut-être comme Kerry James, comme Medine, qui vont avoir des textes où ils veulent passer un message, où ils veulent raconter des choses à leurs auditeurs. Et ces deux façons, et puis après, il y en a plein d'autres qui vont vous faire les deux aussi. Et ces deux manières vont coexister jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, puisque le rap s'est étendu en 1982, c'est le moment où sort The Message, donc on est seulement 3 ans après Rapper's Delight. En 1982, Afrika Bambaataa, comme un prophète qui veut répandre sa religion, il va vouloir aller répandre le hip-hop et la culture hip-hop dans le monde entier. Il va commencer par l'Europe, il va faire ce qu'il appelle The New York City Rap Tour, et il va aller en République tchèque, en Bulgarie, et surtout en France, où il va introniser des rois zoulous et des reines zoulous, des Zulu Kings et des Zulu Queens. Et il y aura même une émission de télévision dès 1983 qui va être diffusée à la télévision. C'est la première émission de télé sur le rap dans le monde entier. C'est en France. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un autre jour, parce qu'on a terminé cette heure qu'on devait passer ensemble autour des débuts du hip-hop. Encore une fois, c'est une histoire qui se discute, qui est discutée. C'est une version de l'histoire, ce sont des versions de l'histoire. Il y a plein d'endroits où vous pouvez aller chercher cette histoire. Il y a plein de documentaires, on en reparlera après. Plein de bouquins, des BD qui sont faites sur YouTube, sur Netflix, etc. Et 1983, du coup, on est un an après The Message, et c'est le moment où les premiers rappeurs français arrivent, les premiers danseurs aussi, à peu près, même les premiers danseurs dans le coin. Farid Berki à Tourcoing, c'est 1983. Ayam à Marseille, c'est 1983. Cool Chen, son voyage à New York, c'est aussi 1983. Bref, tout ça, on pourra se le raconter, mais ça, ce sont d'autres histoires.
It's like this y'all, it's like that y'all. We represent for hip hop and not the rap y'all.
Début 83, un vent de folie, une culture polie, pour nous débarque sous forme de colis. Je sais pas pourquoi, je reste collé, mais je kiffe tout. Et je deviens vite fou de ce truc qui me prend tout mon temps. Et du coup, ben je kiffe tout. Les cours et le foot, et sans poser le pour et le contre. Toute la tête pour pas finir entouré de pouces. Direction les têtes, avec un seul rêve en tête. Toucher de près à la source, voir à quoi ressemblait la bête. Le choc fut terrible, on peut parler de traumatisme, tellement le retour fut pénible. J'ai senti ce qu'on peut ressentir que là-bas, l'ambiance qu'il y a pas chez nous, t'excite pas. C'est juste une question de culture, panique pas. Je fais pas l'apologie des caries. Je parle de hip-hop et de l'amour qu'ils ont pour leur truc. C'est pas rien, c'est parce que j'ai kiffé d'entrer du débrief. Et les murs parlent d'eux-mêmes, ici pas de passion déguisée. C'est juste une odeur, un parfum de rue. Un truc qui te fait dire que ça pouvait naître qu'ici de Harlem à Fordham. J'en ai encore l'âme percée. Tous ces sons old school qui m'ont percé. Et si c'est le berceau, c'est qu'ils pouvaient pas faire sans. Une vraie culture de rue perçue comme un cri perçant le béton, renversant le ghetto, lui permettant surtout de sortir mon cerveau de l'étau. Donc quand je prends le mic, c'est pour défendre ma musique. Et si je prends des risques, c'est pour l'engouement que ça suscite. C'est ma vie, ma musique, le hip-hop c'est magique. Je bats ma musique, car quand je prends le mic, c'est pour défendre ma musique. Et si je prends des risques, c'est pour l'engouement que ça suscite. C'est ma vie, ma musique, le hip-hop c'est magique. Je bats ma musique, début 80.
Merci. On peut applaudir Fred Flamme au son et à la technique et à la lumière. Et franchement, je vous applaudis, je vous remercie vous parce que il fait chaud et je sais pas comment vous avez tenu une heure. Moi, j'en peux plus. Je retrouvais plus mes mots, mes phrases et tout tellement je crève de chaud. C'est un truc de ouf. Je veux aussi, avant qu'on discute, remercier les gens et les structures grâce à qui cette conférence, ce spectacle, ce truc auquel il faut trouver un nom à un moment, est en train d'être créé, parce que c'est pas terminé, on a encore plein de choses à travailler. Du coup, il y a la Cave aux Poètes, il y a la Maison Folie Hospice d'Avray, le Crossroads Festival, évidemment, le FLO aussi qui est un soutien, et puis la DRAC. La DRAC, c'est le ministère de la Culture, mais dans la région, qui file un coup de main et qui file de l'argent pour qu'on puisse réussir à faire ce spectacle et puis à venir parler avec vous. Et du coup, Manon, de la Cave aux Poètes et du collectif Jeune Public, je crois que tu voulais dire un mot, mais je ne sais pas si tu es dans le coin ou si je parle à personne. Manon est dehors. D'accord. Yeah. On peut applaudir Manon, voilà. Bah, c'est un truc de ouf. Ah, on n'en peut plus, là.
Bonjour à toutes et tous. Bravo, Ismaël. Merci d'être ici aujourd'hui. C'était juste un petit mot pour vous dire que, du coup, c'est un spectacle qui a été organisé par le Crossroads et par la Cave aux Poètes. On fait une petite pause et puis qu'ensuite, on a une rencontre professionnelle autour, justement, des questions de rap et jeunes publics pour les professionnels, pour les élèves. J'espère que ça vous a plu, et puis comme on a un petit peu de temps, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Ismaël. Et je voudrais aussi remercier la médiathèque qui nous accueille aujourd'hui et qui a permis que tout ça, ça se passe. Voilà. Et je vous laisse poser vos questions à
merci
Ismaël.
Manon. Et pas que des questions, hein. Vous avez le droit aussi de dire des trucs où il n'y a pas un point d'interrogation à la fin, parce qu'on vous l'a dit, le spectacle est en construction, et donc vos avis sont les bienvenus. Ouais, vas-y Sofiane. Alors, ah ouais, une règle, on se tutoie s'il vous plaît, ok, sinon j'ai l'impression d'être vieux. Et je fais ça depuis très longtemps, tu veux dire que je fais quoi? Ça ou rapper? Alors je rappe depuis que j'ai 15 ans. Et je fais des ateliers d'écriture depuis à peu près j'ai 17-18 ans. Ça veut dire que, alors j'ai appris dans un atelier d'écriture. J'ai appris à rapper dans un atelier d'écriture avec un rappeur qui nous apprenait comment faire. Et très vite, du coup, j'ai voulu faire la même chose. Et de plus en plus, au fur et à mesure que je faisais ça et que je rencontrais des classes ou des jeunes dans des centres sociaux et tout, je me rendais compte que tout le monde écoutait du rap. À mon époque, à moi, quand j'étais au collège, j'étais le seul, on était deux ou trois sur une classe environ, à écouter du rap. Maintenant, c'est plutôt le contraire. On a plutôt un, deux ou trois qui n'écoutent pas de rap, et tous les autres écoutent. Sauf que la plupart écoutent du rap sans forcément savoir que c'est du rap, ou sans se poser de questions, comme on mange du McDo, ou un tacos, ou comme on regarde Netflix, ou comme on joue à Fortnite, parce que tout le monde le fait, alors on le fait. Et je me suis dit que ce serait cool de réfléchir à pourquoi on écoute du rap, à comment ça se fait que moi, quand j'avais votre âge, j'étais un des seuls à écouter du rap. Et aujourd'hui, ça s'est ultra popularisé. Et voilà. Voilà comment c'est né. Et c'est né il y a à peu près un an ou deux. Est-ce que ça répond à ta question? Cool. Vas-y, devant. Tu veux que je rappe? Alors, on prend les questions et tout, et après je rappe si tu veux. D'accord, on fait ça parce que sinon on va perdre du temps, et en plus tu peux aller voir mes morceaux sur YouTube et tout, t'as pas besoin. Et toi tu rappes? T'es sûr? Vas-y derrière. Ah! Tu m'as déjà vu sur scène, c'est ça? Où ça? Au Grand Mix? Pendant le Cléa, alors. T'étais en primaire encore, non? Ok. Donc c'était il y a plus d'un an, c'était avant le confinement. Ouais, c'était il y a un an et demi, t'as raison. Ok. Sofiane? Des autographes. C'est quoi un autographe? Et ça sert à quoi? Ok. Et toi, tu vas me signer un autographe? De quoi? Pourquoi c'est moi qui vais signer et pas toi? Et toi, t'es pas artiste, t'es danseur, t'as dansé. T'as fait spectacle avec moi. Bah, moi non plus. Ça veut dire quoi, connu? Je te signe un autographe si tu me signes un autographe. On fait ça ? Go. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur un endroit, un moment du spectacle ou de la conférence, ou des choses à dire, des ajouts, des trucs que j'ai dit avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, ou avec lesquels vous êtes d'accord ? C'est possible que non, hein. Ou alors vous avez envie d'aller prendre un peu d'air frais. Ok, il y a Rosa Parks dans le coin, c'est ça, hein? Vous êtes où, Rosa Parks? Ok. C'est vous la classe hip-hop? Vous êtes la classe hip-hop, c'est ça?
Oui.
Trop bien. Donc on va se voir bientôt, en fait. Mais du coup, vous connaissez déjà, je dois vous voir pour vous raconter l'histoire du hip-hop, mais vous allez déjà connaître. On va faire de la révision, en fait, on va faire une interro. Et il y a Jean Lebas aussi, avec qui on va bosser cette année. Non? Vous n'êtes pas là, Jean Lebas?
Si.
Bah, vous êtes où? Ah, voilà. Vous n'avez pas envie de vous montrer. Ok, cool. Eh ben, s'il n'y a plus de questions, je vous redis que ce spectacle est en construction, qu'on aimerait bien pouvoir le terminer, et que normalement ça va se faire. On a eu, grâce au soutien de la DRAC, en vérité, ça va se faire. Et c'est produit par la compagnie Trou de Mémoire, et que si vous avez envie de voir les prochaines dates, ben vous pouvez voir sur les réseaux de la compagnie Trou de Mémoire ou demander à Zelda, qui est là-bas. Et vous pouvez filer vos contacts à Zelda et elle vous dira les prochaines fois où on joue. On a déjà quelques petites dates prévues parce qu'on a décidé de le jouer même pendant qu'il se construisait. Et voilà. Ok, terminus. Eh ben merci tout le monde. Et c'est Sofiane, c'est toi qui voulais que je rappe. Et comment il s'appelle? Ah, c'était toi. Bah, on se voit après, on fait ça devant. Ça te va? Comme ça, on va prendre... Ah, attends. Ah, tout le monde veut voir. T'as une instru? Ah, mais tu voulais parabole? J'ai pas l'instru. Ça faisait depuis petit, je vole, c'est ça. Caracole entre les paraboles. Un drapeau flottant sur chaque épaule. Mon sang, j'en ai ras-le-bol. J'ai pas grandi sous les tôles ondulées. Plutôt le long de l'étang, tout au long de l'été. On était tout le temps à plein. On roulait à vélo à plein temps. C'était il y a pas mal de printemps, on tapait des pointes pour la maison hantée, et devant la télé, c'est les bleus que l'on supportait. Pour dire la vérité, on manquait déjà d'égalité, on a vite capté que papa c'était le seul à pas kiffer à l'idée. Appris à pas dire aux filles le nom du quartier, d'où tu es, tôt ou tard tu te trahissais. Toi, ta face, un tchèque ou un accent, un cadeau de Noël absent. Des cousins, il y en avait 400, comme les coups, tout niqué, on était partant de pluie, accent ch'ti, fond de chabi et Sylvie Vartan. Je suis le fils de la parabole, métisse mais j'ai qu'une parole. Je suis un palmier, sans racines, le ciel est mon sol. Fils de la parabole, métisse mais j'ai qu'une parole, palmier sans racines, le ciel est mon sol. Bah merci tout le monde, et moi j'ai des questions quand même. Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué, qui vous a plu, qui vous a pas plu? Qu'est-ce que vous avez retenu en vrai de vrai? Parce que ce spectacle, il est fait pour vous en vrai, notamment pour les collégiens lycéens, et j'aimerais bien avoir votre avis. Vas-y, dis-moi, je connais pas ton prénom. Ouais, les trois qui arrivent dans la Cadillac là? Yes. Vas-y. Ah, le moment là-bas, là, avec Africa Bambaataa, quand il réunit tous les chefs de gang, c'est ça? Ouais, Sofiane. Le tout début, au tout début, avec Kool Herc, là? Ça, c'est ça que t'as aimé? Ok. Est-ce qu'il y a des trucs que vous n'avez pas compris? Vous n'avez rien compris du tout? Là, je parlais, mais vous m'aviez perdu. Ou je vous avais perdu. Ok. Bon, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, si vous voulez, sur les réseaux, vous demandez à vos profs, ceux qui vont bosser avec moi. Et si vous êtes timide et que vous n'avez pas envie de parler devant tout le monde, vous m'écrivez. Moi, j'ai envie que cette pièce, elle défonce. Donc, je vais avoir besoin de vos conseils et vos avis. Merci beaucoup d'avoir tenu jusque-là. Et puis, à bientôt. Hein. Merci. Super. C'est dur aujourd'hui, hein.